Europe 1.
Votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est la ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Circuler, il n'y a plus rien à voir.
De quoi parlez-vous?
Est-ce que vous dites ce matin, circuler, il n'y a plus rien à voir, Jean-Michel Blanquer s'est expliqué et donc la polémique est derrière lui?
Écoutez, moi je pense qu'on vit un moment où le débat médiatique, politique, il faut parfois le mettre un peu de côté. Je crois que Jean-Michel Blanquer a dit tout ce qu'il fallait dire, et puis ce débat politique, on sait, il évolue chaque jour. Le sujet, je crois qu'il compte, c'est quel est l'état de notre pays.
Un pays
qui a été mis à l'épreuve depuis 2 ans par un virus, mais un pays qui tient, un pays courageux, et un pays qui, parce qu'il a laissé ses écoles ouvertes, montre qu'il croit avant tout à l'avenir.
Mais qui veut, selon vous, la peau de Jean-Michel Blanquer?
Écoutez, on est dans un moment où on voit bien, les parents sont fatigués. Moi, je suis la maman de 3 enfants, on fait des tests, des autotests à la maison tous les jours. On voit que les enseignants sont fatigués, on voit que les enfants aussi en ont marre. Et donc, on est dans un moment où il ne faut pas qu'on perde le cap. Et surtout, les Français, ils perdent pas le cap.
Vous répondez pas. Qui, selon vous, veut la peau du ministre? Est-ce qu'il paye, par exemple, ses engagements sur la laïcité, contre l'islamo-gauchisme, contre le wokisme?
Moi, je vois que ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir? Jean-Michel Blanquer, le gouvernement, le Premier ministre, le président de la République, il a pris un engagement. C'est que dans cette crise, nous ne mettrions pas l'école, mais nous ne mettrions pas les enfants de côté.
Madame la ministre,
je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'il y aurait tel ou tel qui irait derrière tel ou tel. C'est pas intéressant. Savoir aujourd'hui ce qui compte, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Nous avons pris une promesse vis-à-vis des Français, c'est que les services publics allaient tenir, que le service public de l'école en particulier allait tenir.
Amélie Manchin, il y a une forme de populisme à taper à bras raccourcis sur les politiques, je le concède, et je ne veux pas emprunter cette voie et me transformer en juge. Mais est-ce qu'on peut vous poser quand même la question ce matin, compte tenu de ce que vous dites, pourquoi cette légèreté coupable? Pourquoi ne pas se rendre compte qu'en période de crise, comme vous le dites, où tous les regards sont braqués sur cela, certaines choses ne se font pas?
Écoutez, le ministre a dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet hier à l'Assemblée. Maintenant, je pense que dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de l'avenir de nos enfants, dans l'intérêt du service public, qui est ce qui fait tenir notre pays aujourd'hui, nous avons intérêt à mettre ces débats, ces polémiques, parfois ces feux de paille qui émergent, de côté, et nous concentrer sur ce que les Français attendent de nous, responsables politiques.
Alors allons-y.
C'est que nous soyons à leur côté pour que ce pays, malgré cette crise très éprouvante, tiennent debout, et que le courage dont font preuve les Français chaque jour, eh bien nous puissions être à l'honneur de ce courage.
Alors,
et que nous avancions.
C'est le plus important, le fond, Amélie de Montchalin, c'est un nouvel appel à la mobilisation ce jeudi dans l'éducation nationale. Quand les protocoles sanitaires ne satisfont personne, ni les parents, ni les enseignants, est-ce qu'il faut changer de méthode?
Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il faut s'ajuster. Et depuis le début de cette crise, le président de la République l'a toujours dit, on ne sera pas forcément parfait, mais comptez sur nous pour corriger le tir. Alors ça veut dire, oui, que les protocoles se sont ajustés. Ça veut dire, aujourd'hui, on l'a vu, nous sommes dans une période sanitaire très particulière.
Je parlais de la méthode, concertation, anticipation. Manquez de cela?
Mais nous sommes dans une période particulière. Le virus lui-même évolue. Et donc, qu'est-ce qui se joue devant le gouvernement depuis maintenant 2 ans? C'est un dialogue continu avec les enseignants, avec les fonctionnaires et les syndicats de fonctionnaires.
Pourquoi disent-ils
tous les 15 jours? Parce qu'aujourd'hui, évidemment,
est-ce qu'il y a deux visions aujourd'hui de ce qui se passe
dans l'éducation
nationale?
Non, les règles ont changé parce que la pandémie elle-même a changé de nature. Le Premier ministre, avec Olivier Véran, avec Jean-Michel Blanquer, encore la semaine dernière, ont pris l'engagement de tenir des concertations encore plus approfondies, notamment pour que chacun comprenne bien quelle est la nature de la pandémie.
Donc vous trouvez que cette grève est illégitime, finalement, puisque vous dites que le dialogue est continu?
Non, mais je dis d'abord que la grève, c'est un droit. Je dis aussi que moi, je crois au dialogue social. Ce dialogue social qui apporte des solutions dans les mouvements aujourd'hui des enseignants. Vous voyez qu'il y a d'autres choses qui se mêlent. Il y a des questions sur le pouvoir d'achat. Jean-Michel Blanquer a mené, par le dialogue social, un Grenelle de l'éducation, qui a, pour les jeunes enseignants, permis déjà des revalorisations. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Évidemment. Je mène, vous voyez, aussi, par le dialogue social, des résultats très concrets qui concernent aussi les enseignants. La mutuelle santé qui va être prise en charge pour tous les enseignants à partir de 2022. C'est aussi par le dialogue social. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Évidemment. Est-ce qu'on a tout résolu? Non. Est-ce qu'on s'est engagé? Oui. C'est quoi la politique à un moment donné? C'est du sang-froid, de la méthode, du dialogue.
Bien. Donc, s'il faut reprendre le dialogue, avec les éléments de langage
continue.
Ce matin, vous avez tout réussi.
Non, pas du tout. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit d'abord que on avait évidemment encore beaucoup de travail. Que la méthode, c'était évidemment le dialogue. Que s'il y avait des choses à poursuivre dans l'approfondissement de ce dialogue, on allait évidemment le faire. Que nous n'avons aucune, j'allais dire, naïveté sur l'état à nouveau de fatigue, de lassitude de ceux qui sont au front, en première ligne, parce qu'on parle beaucoup des soignants, mais les enseignants, ils sont mobilisés pendant le confinement, ils se sont remobilisés pour le déconfinement.
C'est bien ça qui est,
ils sont dans les écoles et ce protocole est particulièrement éprouvant, on le sait, pour les enfants, donc, et pour les enseignants et pour tous ceux qui le vivent. Donc,
notre ligne,
c'est pas qu'on est parfait, c'est qu'on continuera à agir avec méthode, avec accompagnement et avec grande lucidité.
Est-ce qu'on peut souligner un point positif malgré tout? C'est toujours important de donner une lueur d'espoir. C'est la continuité de nos services publics pendant la crise. Il est vrai que l'engagement est bien là, que tous les services publics ont tenu. Et ça, quelle que soit la couleur politique et les gouvernements, c'est important à mettre en avant.
Mais attendez, nous, depuis 2 ans, le président de la République avait fait une promesse. Plus jamais nous ne vivrions le moment un peu de sidération qu'on avait vécu en mars-avril 2020. C'est pas immédiat, c'est pas automatique. C'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup d'organisation. C'est de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, les Français ont en face d'eux des services publics qui sont ouverts,
certains
qui leur répondent,
dire, fort heureusement,
qui tiennent les délais.
Vu les impôts mais, et ce qui est investi dans nos services
oui,
publics,
c'est aussi
ce serait la moindre des choses.
Oui, non, mais évidemment que c'est le cœur de la République. Évidemment que c'est un devoir que la République de faire tenir ses services publics. Maintenant, entre les engagements que vous prenez et les résultats que vous avez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 75% des Français aujourd'hui qui nous disent, ça a été publié hier, qu'ils reconnaissent que les services publics ont tenu, c'était 63% l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'on a progressé.
Oui,
et je tiens ici à vraiment dire,
Madame la Ministre,
ça tient sur les agents publics qui, partout dans le pays, là où ils sont, dans les communes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tout ce qui fait notre vie quotidienne, se sont adaptés. C'est un engagement que j'ai piloté depuis le mois de
mais les Français, l'automne 2020. Si vous les entendez sur ce sujet, ils ne veulent pas forcément plus de fonctionnaires, mais mieux de fonctionnaires. La France compte plus de fonctionnaires en fin de quinquennat qu'en début, quels que soient d'ailleurs les quinquennats. Sur les 3 premières années, par exemple, du quinquennat Macron, c'est 137 000 nouveaux agents. Bon, la promesse de réduire la voilure, elle s'est envolée.
Alors, on doit être bien clair. On aura exactement le même nombre de fonctionnaires dans l'État à la fin du quinquennat en 2022 qu'au début de 2017. Notre engagement avec le président de la République, c'est pas d'être obsédé, comme certains, notamment à droite, par le nombre de fonctionnaires.
Vous en avez fait la promesse, c'est pour ça qu'on
s'est pas renié. Ce qu'on a dit, c'est que on était obsédé par quelque chose, c'était l'efficacité de l'action publique et la proximité. Qu'il y ait moins de gens dans les ministères, qu'il y ait beaucoup plus de gens dans les commissariats, dans les tribunaux, dans les hôpitaux.
Attendez,
dans les départements,
on a les chiffres.
137 000
nouveaux agents, dont 77 000 dans la fonction publique d'État, 30 000 dans les collectivités locales et 31 000 dans les hôpitaux.
Là, vous me parlez de chiffres qui sont le début du quinquennat, je vous parle sur l'ensemble des 5 ans. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec le président? Sortir d'une vision où le nombre de fonctionnaires devient une obsession. Vous avez à droite des
gens... C'était la vôtre en début de quinquennat?
Non, c'était pas notre obsession. On a dit
Macron.
La chose suivante. Parce que nous allons transformer l'action publique, parce que nous allons regarder comment mieux servir les Français, la conséquence de ça, c'est que oui, on redéploiera nos forces et on les mettra sur le terrain. Et après, nous, on s'est adapté. C'est la France de 2022.
Mais c'est important
c'est
ce que
pas
vous
celle
dites.
De
Macron
2017.
De 2022, Mélanie Montchalin, ne fera pas la promesse de réduction des effectifs de la fonction
mais
publique.
Ça n'est
plus le même Macron
ça
de 2017.
Jamais été, ça n'a jamais été. Je suis très claire là-dessus. L'obsession, ça n'a jamais été la fin. On a toujours dit que, oui, on allait se réorganiser, on allait redéployer. Vous voyez, il y a 5 000 nouveaux fonctionnaires qui arrivent dans les départements, au plus près des Français. Il y a 5 000 agents publics aujourd'hui qui sont dans les France Services, pour que les Français puissent faire leurs démarches près de chez eux. Il y a aujourd'hui 10 000 policiers de plus. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez aujourd'hui une candidate à la présidentielle qui ne parle que de réduction, qui ne parle que de coupe. Le bilan, on le connaît, c'est celui entre 2007 et 2012, c'est moins d'agents sur le terrain, c'est 40% de
vous
personnel
de
en moins
Pécresse.
Dans les préfectures
Annelie
et sous-préfectures. Montchalin,
rappelons quand même à nos auditeurs que vous avez un parcours avant Emmanuel Macron, que vous avez accompagné une partie de la droite, et dont Valérie Pécresse aussi.
Mais je sais pourquoi j'en suis partie. Je suis partie en 2016 précisément parce que l'approche comptable, cette espèce de vision comptable des choses, elle ne renforce personne, elle ne sert aucun Français. Elle est là pour donner des signaux à un électorat. Elle est là parce que Madame Pécresse aujourd'hui c'est le prévôt de Madame Thatcher.
Quel lapsus, oui.
Madame Thatcher, c'est quoi? C'est une cruauté sociale. Est-ce que ça correspond aux besoins des Français?
Certains vous diront que c'est une efficacité aussi.
Non,
hein.
Le service public que nous défendons avec le président, c'est un service public qui est là où les Français vivent, qui répond à leurs besoins, qui se redéploie, qui se réorganise, qui évidemment se transforme. Mais tous ceux qui vous font croire que parce qu'on va réduire le nombre, on servira mieux les Français, d'abord ils se fourvoient, ils affaiblissent l'État.
De manière générale, Amélie de Montchalin, pour sa stratégie sanitaire, le gouvernement a confié des missions à des cabinets de conseil, dont le cabinet américain McKinsey. À ce sujet, une commission d'enquête au Sénat est en cours. Vous serez d'ailleurs auditionné sous serment, je le précise, cet après-midi. Question simple qui vous sera certainement posée. Pourquoi avoir sollicité un cabinet pour des sommes énormes au lieu de faire appel aux compétences que vous me et vous nous vantez depuis tout à l'heure de nos administrations dans le domaine de la santé ?
Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que dans notre pays, dans toutes circonstances, c'est toujours le gouvernement qui décide et l'administration qui applique. Il n'y a pas des gens qui nous gouverneraient en sous-main. On n'a pas délégué des pans entiers de l'action publique à d'autres.
Il y a un nouveau pouvoir qui nous conseille.
Non, mais notre cap, c'est quoi ? C'est à nouveau une action publique efficace et de l'argent public bien géré. Dans ce quinquennat, les dépenses de conseil n'ont pas augmenté. Elles sont à 140 millions. Dans mon ministère, vous voyez, je les ai même divisées par deux.
La question, c'est pourquoi demander à un cabinet de conseil ce que notre administration, que vous vantez depuis tout à l'heure et on aimerait vous croire, pourrait faire ?
Je vais vous répondre sur le sujet de la crise sanitaire. 14 millions d'euros, c'est la somme que l'Assemblée nationale estime que le ministère de la Santé a effectivement confié pendant la crise sanitaire à des cabinets de conseil. Au Royaume-Uni, c'est 700 millions d'euros. Donc déjà, reprenons aussi, par la comparaison, ce qui a pu se passer chez nous et chez d'autres. Après, est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? La réponse est non. Parce que nous avons aujourd'hui les moyens de fixer une règle de bon sens, une règle stricte. Tout ce que peut faire l'État n'a pas à être confié à des consultants.
Mais alors pourquoi l'avez-vous fait ?
Nous allons bloquer à partir de maintenant l'ensemble des contrats.
Mais vous arrivez en fin de quinquennat, madame la ministre ?
Non, parce que ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en 2017, nous avons été le premier gouvernement à fixer des règles. Ce sujet n'était absolument pas piloté. La droite disait, on supprime des fonctionnaires, on a des consultants. La gauche disait, au fond, on ne regarde pas le sujet, c'est idéologique.
C'est vous qui êtes en face de moi ce matin. Le total des prestations extérieures s'élèverait à 2 millions par mois, pour ce cabinet en l'occurrence. Et pas seulement, il y a d'autres cabinets. Disons le mot, c'est un pognon de dingue. Moi, la question, c'est quel est véritablement le rôle et l'influence de ce cabinet et des autres qui interviennent.
J'y reviens. D'abord, la décision, ce n'est pas eux qui la prennent. Deuxièmement, je vous l'ai dit, nous avons fixé des règles, nous avons tiré les leçons de la crise.
Quelles règles ?
Les règles que nous fixons et que nous renforçons, quand on a les compétences dans l'État, on n'a pas de recours au conseil externe. On peut le faire aujourd'hui. Pourquoi on peut le faire aujourd'hui ? Pourquoi on pouvait moins le faire il y a 5 ans ? Parce qu'entre-temps, on a fait une réforme qui s'appelle la réforme de la haute fonction publique, qui va nous permettre, vous le savez, de sortir d'une gestion par des corps très rigides, qui va nous permettre de recruter des experts, qui va nous permettre de créer des cabinets de conseil internes, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant, et qui va nous permettre, par cette meilleure gestion des compétences, parce qu'on allait aussi mieux former nos fonctionnaires, de faire en interne ce qui était parfois délégué à d'autres. Et donc on va pouvoir permettre, et c'est ça qu'il faut retenir, 15% de dépenses de moins de conseils dès 2022.
Vous voyez, là vous avez l'obsession des chiffres, mais moi ma question, c'est la philosophie. Est-ce qu'on n'a pas privatisé nos politiques de santé que de les laisser sous l'influence et les chers conseils de ces cabinets ?
14
millions en France,
quelle
que soit leur efficacité d'ailleurs.
14 millions en France, 700 millions au Royaume-Uni. Deuxième élément, moi je ne verserai jamais dans le populisme qui consisterait à dire
que c'est du populisme
jamais,
que vous posez
au grand
ces
jamais,
questions.
L'État n'aurait pas besoin d'aller chercher une vision externe, n'aurait pas besoin d'aller chercher une compétence ponctuelle qu'il n'a pas. Ce que je vous dis en revanche, il n'y a pas de laisser-faire.
Attendez, vous avez raison, madame la ministre. Je ne remets pas en cause l'efficacité de ces cabinets. Vous le dites, ils font appel à ces cabinets à l'extérieur. Mais je vous donne un exemple. Quand un cabinet obtient un contrat de 500 000 euros pour évaluer les évolutions du métier d'enseignant, à ce prix-là, qu'ont-ils découvert que nous ne sachions déjà sur le métier d'enseignant ?
C'est bien pour ça que le Premier ministre, et je le dirai au Sénat en toute transparence, parce que nous avons fait cette réforme, parce que nous pouvons mieux recruter, parce que nous pouvons mieux gérer nos compétences en interne, nous avons fixé une règle, je le répète, très simple. Quand on a les compétences pour faire, on ne donne pas des missions au cabinet de conseil externe. Depuis 2017, on a été le premier gouvernement à s'intéresser à ce sujet. Il y avait de l'idéologie. Il y avait, je pense, du gaspillage d'argent public. Depuis 2017, on a tenu le sujet. On tire la leçon de la crise.
Je viens de vous citer le contre-exemple. Peut-être que vous ferez moins que d'autres, mais là, avec ces contrats-là, c'est le contre-exemple.
C'est bien ce que je vous dis. C'est
donc vous arrêtez pour la suite.
On
que vous
a
nous
tenu
dites.
Les choses. Il y a pu avoir des exemples qui nous montrent qu'il faut qu'on soit beaucoup plus strict. C'est l'engagement que nous prenons. Et je veux à nouveau rassurer les Français. Jamais, jamais, ce sont des consultants qui décident. La question, c'est comment on est.
La question,
dans une
est-ce que ce n'est pas un nouveau pouvoir
interne
qui se substitue à la technocratie classique d'État et est-ce que finalement le vrai remplacement n'est pas celui-ci ?
Non mais c'est bien ce que je vous dis. Les prérogatives de l'État, on les garde. La décision, c'est les politiques. L'administration, elle applique. Mais l'administration, grâce à la réforme de la haute fonction publique que nous prenons, grâce à cette meilleure gestion de l'argent public sur laquelle nous nous engageons, nous pouvons aujourd'hui, et je peux vous le dire concrètement, ne pas dépendre de gens à l'extérieur quand nous avons les compétences à l'intérieur. Mais ce n'était pas possible avant. Parce que la vision d'une administration qui était rigidifiée, qui ne pouvait pas recruter des experts, avec des compétences variées parce que nous avions une logique de grand corps, rendait beaucoup plus difficile. Et puis, je le redis, il y avait aussi une vision politique, notamment de la droite entre 2007 et 2012, qui disait quoi ? Moins de fonctionnaires, plus de consultants. Je vous l'ai dit, par de nombreux exemples, ce n'est pas notre vision. On veut un État efficace, on veut un État qui a des compétences, on veut un État qui est capable de prendre lui-même ses décisions.
Et on peut ajouter pour conclure
et
la souveraineté.
Ne déléguer sa souveraineté à quiconque, ce n'a jamais été le cas. Mais je peux vous dire qu'avec ce que nous faisons, ce sera beaucoup plus clair et aussi beaucoup plus transparent pour les Français.
Merci Amélie de Montchalin et vous donnerez surtout ces réponses tout à l'heure.
Au Sénat, tout à l'heure à 16h30.
Évidemment au Sénat. Je vous remercie en tous les cas d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée à vous.
Merci.
Ainsi qu'à nos auditeurs. Merci.